Quelle joie de vous souhaiter la bienvenue ici à Longueuil. Souhaitez la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne, nos 7 sites et aussi partout à travers la province de Québec. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui se joignent à nous en ligne? Je veux accueillir, c'est déjà les vacances ici au Québec, il y a plein de gens qui sont en vacances, il y a des gens aussi qui nous visitent. Je veux juste mentionner le pasteur Daniel Medbach, son épouse Magali, pasteur de Vie Nouvelle à Trois-Rivières. Pouvez-vous vous lever qu'on puisse vous accueillir? Quelle joie d'accueillir des serviteurs de Dieu dans la maison. Il y a un grand lien de cœur entre Nouvelle Vie et Vie Nouvelle. J'aimerais vous donner un rapport pendant quelques minutes ce matin, juste avant qu'on plonge dans le message sur notre vision moisson de destinée à vous ici à Longueuil, mais aussi à tous ceux qui nous suivent, à toi de l'autre côté de ton écran. Nous avons pour le 30e anniversaire de Nouvelle Vie, nous avons défié à une offrande spéciale, unique. C'est une fois, une seule fois qu'on va célébrer le 30e, que pendant les 30 jours du mois de juin, vous puissiez semer une semence de reconnaissance pour ce que Nouvelle Vie a signifié pour vous, si Nouvelle Vie a été une bénédiction pour vous, c'est une des grandes sources d'encouragement de nos vies. Nous servons le Seigneur à Nouvelle Vie, c'est d'entendre ce flot de témoignages de gens qui disent « C'est à Nouvelle Vie que j'ai donné ma vie au Seigneur, mes enfants, mes ados, première génération, je suis revenu au Seigneur, j'ai été partout à travers la francophonie, à travers le Québec, des gens qui reçoivent de la part de Dieu par Nouvelle Vie. » Alors une offrance de reconnaissance. Je réfléchissais, je m'en venais à l'église ce matin et dans ma voiture et j'ai regardé, il était 4h20. Il était 4h20 du matin, j'étais en route vers l'église ici pour me préparer, prier pour la réunion. Et je réalisais que 30 ans, c'est 11 000 matins à 4h20. C'est 11 000 matins à 4h20 à venir après avoir passé la semaine à se préparer. Ouais, 11 000 matins. Je ne suis pas le seul, il y a toutes les équipes qui le font aussi. Mais 11 000 matins, 4h20 à venir, quand tout le monde dort encore, ça fait encore sombre de venir préparer la parole pour nourrir le peuple de Dieu. Si vous êtes pasteur Claude, c'est notre pasteur. Et oui, ces 11 000 matins ont produit un fruit dans notre vie. Je veux semer dans cette vision ce matin. C'est une vision de reconnaissance et c'est aussi une vision de récolte pour le présent parce que nous vivons un réveil dans les trois grandes sphères de notre vision. Une vision pour l'implantation d'églises multipliantes en multisites, la vision pour l'engagement humanitaire et missionnaire et aussi pour le soutien, comme on vient de voir, du projet d'agrandissement du bâtiment de l'organisme Action Nouvelle Vie. C'est tellement excitant. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment le seul qui n'a pas été rénové. C'était le plus vieux lorsqu'on a acheté ici sur le territoire, surtout le terrain qu'il y a ici sur la propriété. C'est un bâtiment qui a besoin, qui est maintenant désuet, qui a besoin d'être complètement rénové, changé, agrandi. Et cette semaine, on avait des meetings excitants avec même les ingénieurs. Les plans sont faits et les démarches auprès de la ville sont entamées. Ça avance bien et on croit que c'est le moment maintenant de le faire. Après la pandémie, on avait déjà les plans avant la pandémie. Maintenant, c'est le moment absolument essentiel. On ne peut pas le faire sans vous. Alors, on veut simplement vous inviter à semer. Je nous ai retrouvés dans cette offrande pour ensemble. Levons-nous pour venir semer et bâtir le bâtiment, la maison qui abrite l'organisme Action Nouvelle Vie. Dans Agé chapitre 1, le verset 1 à 14, où nous lisons la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Et nous aussi, c'est le premier jour du mois, de notre premier jour du mois de juin qu'on a lancé ces offrandes spéciales pour un 30 jours. Le premier jour du sixième mois de la parole de l'Éternel fut adressée par Agé avec ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, ce n'est pas le temps pour moi de rebâtir la maison. C'est une saison de récession, une saison d'inflation, de difficulté où chacun était préoccupé par sa propre maison. Ils disaient, non, ce n'est pas le temps pour moi de donner. Mais l'Éternel leur dit, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez le bois, bâtissez la maison. Et Dieu dit, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et le peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu par les paroles du messager Agé, selon la mission que leur donna le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une mission à travers l'organisme Action Nouvelle Vie de toucher des milliers de familles ici, dans notre ville et à travers le Québec. Et le Seigneur leur dit, je suis avec vous. Et le Seigneur réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. C'est la phrase qui m'a percuté cette semaine. Tout le reste du peuple. Et ils vinrent et se mirent à l'œuvre. Et c'était le 24e jour du mois, du sixième mois. Nous, on est le 25e jour du sixième mois aujourd'hui. On se met à l'œuvre. Et c'était la seconde année du roi Darius ou la 30e année de Pasteur Claude et de Nouvelle Vie, comme vous pouvez le lire. Le premier jour, on a lancé et on se retrouve aujourd'hui le 25e jour. Et je veux juste vous donner un rapport qui est tellement encourageant. Notre objectif, c'est de 500 000 $ amassés pour cette cause particulière. Et nous avons plus de 2500 membres, à part des dizaines de milliers qui suivent les messages, qui peuvent faire un don. Mais nous avons plus de 2500 membres. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons eu 544 personnes qui, ensemble, ont donné 253 000 $ jusqu'à maintenant. Le cinquième des donateurs ont donné plus de la moitié de l'objectif. Alors, nous pouvons ensemble dépasser cet objectif. Ça a toujours été cette façon-là pour Nouvelle Vie. C'est chacun, il faut que tout le monde embarque, tout le monde participe. Alors, je m'adresse bien sûr à ceux qui sont dans les nations, mais je m'adresse à ceux qui sont des membres de l'Église Nouvelle Vie sur tous les sites, de vous encourager dans les prochains 5 jours. Pensez-y un instant. S'il y avait 500 personnes qui faisaient un don de 50 $, ce que tellement de gens peuvent faire, et 500 personnes qui feraient un don de 100 $, 500 personnes qui font un don de 200 $, 500 personnes qui font un don de 300 $, on dépense plus des centaines et milliers de gens de Nouvelle Vie dépensent des sommes comme ça tout l'été. Si on avait cet ensemble-là des 2000 autres personnes, nous dépasserions largement notre objectif. Alors, ce matin, merci à tous ceux qui ont donné. Merci. Merci de tout notre cœur. Et je défie le reste, tout le reste du peuple, parce que la Bible, Dieu a dit, « Et j'aurai de la joie et je serai glorifié alors que vous allez accomplir cette mission. » Est-ce qu'on peut acclamer à l'avance que nous allons, par la foi, nous allons rencontrer ce besoin, nous allons rencontrer cet objectif? Ce matin, 4 dimensions d'une relation avec le Saint-Esprit. Jésus a fait une déclaration et promesse surprenante à ses disciples dans son enseignement sur le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16. Il a dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il me glorifiera parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Il y a quelqu'un qui a fait un calcul que si Jésus rencontrait physiquement, parce qu'on dit tout le temps, comment est-ce que Jésus peut dire est avantageux que je m'en aille pour pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit? Si Jésus rencontrait physiquement des gens 14 heures par jour, il leur donnait seulement 60 secondes par personne. Les gens veulent plus que 60 secondes, mais ils ont 60 secondes par personne. Ils ne pourraient rencontrer que 840 personnes par jour. Ça lui prendrait 1190 jours pour rencontrer 1 million de personnes et plus de 2 millions d'années pour donner 60 secondes à chaque être humain sur la terre. Mais Dieu, Jésus dit, ma résurrection va être pour le monde entier, va être pour des multitudes. C'est avantageux que je vous quitte parce que le Saint-Esprit va pouvoir être personnellement à l'œuvre dans chacun d'entre vous. Vous pouvez avoir la même relation avec le Saint-Esprit que les disciples ont eu avec Jésus. Vous pouvez avoir la même relation avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit que les disciples ont eu avec Jésus. Être en relation avec lui, le Saint-Esprit n'est pas une force, il est une personne. Nous prions souvent, je veux plus du Saint-Esprit, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui doit avoir plus de moi. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir plus de moi. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, Jésus continue. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous par le Saint-Esprit. » Un autre, l'expression « un autre consolateur » dans le langage original signifie « un autre de la même nature, de la même essence ». Pas un autre différent, un autre de la même nature que Jésus, de la même naissance, la même essence divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si, comme ça m'arrive à chaque jour, on me sert un café dans mon bureau, je bois mon café, je dis « ah, c'est tellement bon, est-ce que tu pourrais m'en donner un autre ?» Un autre pareil, pas un autre différent, un autre pareil. Jésus dit, Jésus est une personne, il est monté auprès du Père, et le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui agit sur la terre. Il est de la même essence. Vous pouvez avoir autant de Dieu que vous êtes prêt à développer une relation avec le Saint-Esprit. Avec vous et en vous. Ce n'est pas que vous pouvez en avoir plus. Souvent, on pense qu'on peut en avoir plus. Vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas demander pour plus. Vous avez la personne du Saint-Esprit, mais vous pouvez connaître plus, connecter plus, chercher plus. Vous pouvez être plus en communion, plus en communication avec le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Tous les hommes mariés qui sont ici, lorsque tu t'es marié, lorsque tu t'es uni avec la personne de ton épouse, c'est toute la personne que tu as eue d'un coup. Ce n'est pas que tu as eu ses yeux la première année et ses bras cinq ans plus tard et ses cheveux et son cœur. Non, non, c'était la personne. Tu avais la personne dès le commencement. Tu es une avec tu es en communion avec toute la personne, mais de la connaître et de la comprendre prend toute une vie. Que tous les hommes mariés disent amen. De la connaître, de la comprendre, ça prend toute une vie. C'est un mystère. Vos femmes sont un merveilleux mystère que vous devez découvrir de jour en jour. Mais parce que tu l'aimes et parce que tu communiques et parce que tu la connais et parce que tu es en relation avec elle d'année en année, tu l'aimes toujours plus et tu la découvres toujours plus. C'est un bon moment pour les hommes de dire « Amen » et pour les femmes d'applaudir, dire « C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils viennent de dire ?» Parce que c'est une relation. Tu peux connaître plus le Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de membership junior et senior dans la dose du Saint-Esprit. Il n'y a pas de membership or ou argent. Il n'y a pas une mesure première classe pour ceux qui sont dans le ministère et économie pour ceux qui sont membres. Le même Saint-Esprit à lequel Jésus avait accès est le même Saint-Esprit à lequel j'ai accès. Le même Saint-Esprit que les apôtres avaient accès est le même Saint-Esprit que nous avons tous accès aujourd'hui. Il veut développer une relation avec toi. Il est plus qu'un de ses dons. Dans certains cercles pentecôtisants, les gens sont sauvés. Ils disent « J'ai eu le Saint-Esprit lorsque j'ai parlé en langue, lorsque j'ai donné une prophétie. » Pour beaucoup de chrétiens pentecôtisants, le Saint-Esprit est devenu limité ou parler en langue, ou à un don, à une expérience passée dans des réunions à l'intérieur de l'Église. Mais ils n'ont pas une révélation que le Saint-Esprit veut une relation avec toi en dehors de l'Église. Avec toi à chaque jour de ta vie. Est-ce que la personne du Saint-Esprit est un don reçu dans le passé pour toi ou un désir et une recherche de sa personne au présent? C'est l'immense différence entre avoir des moments avec le Saint-Esprit et marcher dans l'Esprit. Des moments avec le Saint-Esprit, j'ai été touché, j'ai été sauvé, j'ai été touché, j'ai été rempli, j'ai pleuré, j'ai été réjoui, j'ai été ému, j'ai été touché. J'ai un moment puissant avec le Saint-Esprit, j'ai vécu un don spirituel. Il y a une différence entre un moment et avec cette marche dans l'Esprit. C'est pour ça que Paul dira aux Galates, « Marchez selon l'Esprit ». Je dis donc, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Si nous vivons par l'Esprit, si on est né de l'Esprit comme croyants, nous devons aussi apprendre à marcher selon l'Esprit. Vous êtes né de l'Esprit. Vous êtes vivant éternellement par votre nouvelle naissance, par l'Esprit. Mais est-ce que je marche? Est-ce que je vis chaque jour en relation avec la personne du Saint-Esprit? J'ai reçu le don de l'Esprit, mais est-ce que je suis en relation avec lui? Je vous l'expliquerai de cette façon. Il y a quelques semaines, il y a un monsieur formidable qui était un père dans la foi, un ami depuis mes premières années de vie chrétienne et qui, il y a plusieurs années, je vais toujours m'en souvenir parce qu'il a marqué ma vie, lorsque je me préparais pour partir pour le collège biblique, il y a des années de cela, lui était dans l'église et j'avais travaillé tout l'été, puis j'arrivais à la fin de l'année et vers le mois d'août, nous ont envoyé les prix finaux pour le collège biblique pour les États-Unis et il me manquait. Je m'en manquais tellement que j'étais à quelques jours de partir et je n'avais pas la somme pour même commencer ma première session. J'étais découragé, je ne savais pas quoi faire, je ne l'ai pas dit à personne. J'étais à l'église un dimanche et lorsque je m'apprêtais à sortir, c'était mon dernier dimanche avant que j'étais supposé partir pour le collège biblique et ce monsieur-là est venu me taper sur l'épaule puis il a dit, le Seigneur a mis sur mon cœur de te faire un don. Je pense que ça va te faire, que Dieu veut que je t'aide dans tes études bibliques. Il m'a fait ce don-là et lorsque je suis arrivé à la maison, c'était la somme que j'avais besoin pour pouvoir faire ma première session. Alors son don, et ce monsieur-là, il est encore vivant, il vient cycliquement me voir, il est dans une autre partie du Québec, mais il vient en visite souvent. Et comprenez bien, ce monsieur-là m'a fait un don ce jour-là, et ce don-là a touché ma vie et porte un fruit encore dans ma vie aujourd'hui. Mais je ne suis pas en relation à tous les jours avec lui. Je le vois tous les 3 ou 4 ans, je suis toujours reconnaissant pour le don, mais je ne suis pas en relation, en communion avec lui. Et la question, est-ce que c'est ça votre relation, ta relation avec le Saint-Esprit? Je suis reconnaissant pour le don, mais je n'ai pas vraiment une relation avec lui. Il y a, dans beaucoup de chrétiens ont limité la relation avec Dieu, le Saint-Esprit, à l'Église, à la prière, à la louange. Mais il n'y a pas ou bien peu de relations. La question, c'est comment est-ce que je peux savoir si est-ce que c'est mon cas qu'en fait j'ai limité, je n'ai pas vraiment une relation avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux savoir ça? Comment est-ce que je peux évaluer cela dans ma propre vie? Écoute-moi bien. Lorsque toutes tes actions, mes décisions, mes priorités, mes passions, mes relations, mes réactions, mes interactions dépendent et reposent sur mes opinions, mes connaissances, mes pensées, mes plans, mes éducations, mes ambitions, mes influences, mes expériences humaines, sans contact avec l'Esprit, communion avec l'Esprit, confiance dans l'Esprit, correction de l'Esprit, tu sais que tu as limité l'œuvre. Tu n'es pas en relation avec lui. Le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour upgrader mon expérience à l'Église. Il est venu pour upgrader chaque aspect de ma vie. Dans chaque aspect de ta vie. C'est pas seulement d'en faire un truc pour 90 minutes par semaine à l'Église. Moi, j'ai vécu très tôt. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. J'ai vécu très tôt des moments puissants avec le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, de vivre des libérations par le Saint-Esprit, des délivrances, des consolations, des dons, de recevoir des dons et d'être utilisé dans les dons. Mais ça m'a pris des années pour comprendre, pour saisir. Et je vous dis avec honnêteté, que c'est encore hallucinant pour moi à quel point c'est facile pour moi d'oublier et de négliger qu'il est la personne du Saint-Esprit et qu'au-delà de ses dons, il m'appelle à être en communion avec lui à chaque jour. D'être en dépendance de lui à chaque jour, d'être en communion avec lui à chaque jour. Le Saint-Esprit dit, pour beaucoup d'entre nous, notre expérience est comme celle du boiteux. Dans Acte 3, à la porte du temple, appelé la belle. Et le texte nous dit dans Acte 3, 1, 2, qu'il est là à la porte du temple et il mendie pour juste quelques pièces. Il mendie pour quelques pièces. Et j'avais cette image en prière cette semaine que tellement entre nous venons à l'Église en nous attendant à infiniment moins que ce que Dieu voudrait pour nous et que l'Esprit de Dieu dit encore aujourd'hui, lève-toi et marche. Je ne veux pas seulement te donner des grenailles à l'Église, je veux t'apprendre à te lever et à marcher dans la puissance et la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je veux que tu te lèves et que tu marches avec moi. C'est ma mission. Vous défier et vous aider à marcher dans l'Esprit qui est déjà en vous. Parce que c'est dans cette relation avec le Saint-Esprit que vous trouverez la force, que vous trouverez la consolation, que vous trouverez un sens de direction, un sens de paix. C'est dans cette communion avec le Saint-Esprit que tu vas trouver une force de pardon, une force de confiance. C'est dans cette communion que tu vas guérir. C'est dans cette communion que tu vas grandir. C'est dans cette communion que tu vas le glorifier. Il ne nous appelle pas seulement à la puissance du Saint-Esprit, mais à sa personne et à une communion avec lui. C'est la doxologie. C'est intéressant, le dernier verset de le premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira « Que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous. » Mais le dernier verset du deuxième épître, chapitre 13, et le verset 13, il y a ces trois, encore une fois, mais regardez bien, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ici j'avais dit espace, remplissez l'espace, là, du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs auraient dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons, nous en bénéficions. J'aurais dit espace de Dieu, l'amour du Père, l'amour de Dieu, oui. Mais si on arrive à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, l'amour de Dieu, plusieurs auraient ajouté la puissance du Saint-Esprit. Mais Paul ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit, mais de la communion avec le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Il veut avoir une communion avec toi. Le mot communion, koinonia, nous connaissons bien parce que c'est un mot qu'on utilise pour nous, communauté, communion fraternelle, ça veut dire communiquer, échanger, parler, recevoir, être en relation proche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourrait être nommé le Dieu inconnu. Pour un large segment de l'Église chrétienne. Quand j'étais plus jeune, je priais beaucoup. J'ai beaucoup prié dans ma vie, dans mes jeunes années, pour « Seigneur, donne-moi plus de ton onction, plus de ton esprit, plus de guérison, plus d'onction pour prêcher, plus de touches et de dons spirituels. » Et j'aspire encore passionnément, plus que jamais, à tous ces dons. Mais comme Paul, j'ai cette conviction que nous avons plus que jamais besoin d'aspirer aux dons, mais aussi de m'approcher et d'apprendre à connaître plus la source de tous les dons, la personne du Saint-Esprit. Actes 15, 28, quelle notion extraordinaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer aucune charge qui est nécessaire. Quelle phrase! Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une colombe, il n'est pas un feu, il n'est pas une rivière, il n'est pas une rivière, il n'est pas une huile. Ne confondez pas les symboles du Saint-Esprit qui décrivent ses actions avec sa personne. Jésus est l'agneau, le pain, la porte et le chemin, mais nous savons qu'il est une personne avec qui nous pouvons être en relation. Le Saint-Esprit veut une relation avec toi afin que tu connaisses ce qui paraît bon à lui. Afin que tu connaisses, pense à cette expression. Les disciples disent, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Dans cette relation, tu en viens à connaître qu'est-ce qui est selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon la compassion de Dieu, selon les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu veut que chaque croyant puisse grandir dans une dimension où je sais que quand je parle comme ça, c'est bon. Ça, c'est bon à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque je réagis comme ça, lorsque j'agis comme ça, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, j'ai une relation, je sais, il y a cette relation. Dans Actes 13, 2, le Saint-Esprit veut encore la personne du Saint-Esprit te communiquer ses convictions, les chemins, les conquêtes et même les choses que Dieu a préparées pour toi. Actes 13, 1 et 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a encore des œuvres de préparer pour toi. Il appelle encore ton nom. Et c'est seulement en communion avec lui que tu vas savoir qu'est-ce que Dieu a pour toi maintenant et dans l'avenir, de répondre à l'appel de Dieu, d'accomplir ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Il n'y aura jamais une saison où Dieu n'a pas une œuvre pour toi. Il n'y a jamais une saison où Dieu n'a pas une œuvre en ce moment. Il appelle encore les Saul et les Barnabas et les Claude et les Thomas. Il appelle encore les Daniel et les Magali. Il appelle encore ton nom pour une œuvre préparée d'avance qu'il veut te révéler et te donner la puissance d'accomplir. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous pendant que nous jeûnions et nous prions. C'est la communion dans toute relation. C'est la communion, c'est la communication qui détermine la connivence, la connectivité, la connaissance des pensées et des perspectives de l'autre personne. Si vous êtes marié depuis quelques années, Chantal et moi, on est mariés depuis 36 ans, puis une des affaires qui arrive depuis des années, mais tout le temps, de plus en plus, c'est que Chantal va dire quelque chose, puis au moment où elle le dit, c'est ça que je suis en train de penser. Vraiment, là. Elle dit quelque chose, puis c'est à ça que je pense. Il y a cette communion, cette relation-là qui fait que je connais ses pensées, elle connaît les miennes. Il y a une relation. Dieu veut que tu en viennes à connaître. Il y a des gens qui parlent en langue et qui agissent comme s'ils ne connaissaient rien de Dieu. Il y a des gens qui ont des dons, qui cherchent des dons, mais qui ne semblent pas connaître le cœur, la volonté, le royaume, la passion de Dieu. Après 36 ans de mariage, Chantal va dire des choses que je pense. Nous sommes en communion, en relation. Après 43 ans de mariage avec Pasteur Mark, 43 ans d'amitié. Il y en a qui disent, waouh, tu viens vraiment d'annoncer la modernité de nouvelle vie. Non, d'amitié. Pasteur Mark et moi, c'est spooky. Comment est-ce qu'on pense? Il y a des conversations qui arrivent, on n'était pas au même endroit, même place. Et là, il me dit, la personne a dit ça. Puis j'ai dit, réagis pareil. Mais on réagit pareil, on pense pareil. Dans cette série, j'ai prêché la première semaine et Pasteur Mark a visionné mon message pour être sûr de ne pas toucher les mêmes points. Il a prêché dimanche passé, formidable, un message puissant. Dimanche soir, vers 10h30, je regarde la réunion et j'avais commencé à préparer cette semaine. Tous mes points de cette semaine ont été prêchés la semaine dernière. Différents styles, différentes personnalités, mais une même pensée, une relation, une même cause, un même cœur. Le Saint-Esprit veut nous communiquer ce qui est bon pour lui. Le Saint-Esprit veut avoir cette communion avec toi, avec moi, nous communiquer la passion, les plans de ce qu'il a préparé pour sa puissance pour toi aujourd'hui. On va regarder à quatre dimensions ensemble. Nous allons explorer et découvrir ensemble les quatre dimensions pour développer une relation avec le Saint-Esprit. Et je vais vous enseigner comment vous pouvez l'expérimenter de façon exponentielle dans votre vie. Premier message aujourd'hui, deuxième partie du message, ce mercredi, le 28, 19h30, soyez là en ligne. Le message va être en ligne aussi plus tard, mais il faut venir vivre. Il va y avoir des dizaines de personnes ici pour prier avec vous. Je déclare à l'avance cette soirée, venez et recevez et soyez remplis du Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit qui va nous remplir ce mercredi soir. L'Église chrétienne moderne a développé une fausse trinité qui est amoindrie. Dans des milliers d'Églises, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu les Saintes Écritures. Et très souvent, dans cette troisième partie, ça s'est réduit à une dimension théologique, d'argumentaire stérile, théologique, intellectuel. Rappelle-toi que les apôtres n'avaient pas les Écritures du Nouveau Testament. C'est eux qui l'ont écrit, mais ils avaient une relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de dire que la parole de Dieu n'est pas importante? Absolument pas. Mais la lettre par elle-même tue. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est la communion avec l'Esprit qui donne la vie aux Écritures. Nous allons prendre comme modèle Jésus dans sa relation avec le Saint-Esprit, comment il dépendait de sa relation avec le Saint-Esprit pour regarder à ces quatre dimensions d'une relation avec le Saint-Esprit. Et la première dimension, c'est d'être né du Saint-Esprit et scellé par le Saint-Esprit. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il en est de même pour nous spirituellement. Jean 3, 5 et 6, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît de l'eau, baptême d'eau, repentance, et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ta relation avec le Saint-Esprit a commencé avec ta nouvelle naissance spirituelle. Ce n'est que le commencement, c'est l'entrée dans la première dimension. Sans cette révélation de notre besoin d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu peux devenir un chrétien pentecôtisant qui est pharisianique, qui étudie et célèbre les réveils d'hier et d'ailleurs et attend des réveils futurs alors que tu rejettes, négliges ou es indifférent ou aveuglé au réveil présent et personnel et puissant que Dieu veut te donner aujourd'hui si tu es prêt à développer une relation avec le Saint-Esprit. Comme chrétien, tu es né deux fois et tu ne meurs jamais. Tu es né une première fois avec une nature. À notre naissance, une nature que la Bible appelle, l'appellation biblique, c'est la chair. Ça parle de notre nature, nos tendances, nos pulsions, nos hérédités, notre volonté, nos dysfonctions, nos carences. Ça parle de toute cette dimension-là de la chair. Tu es né, mais nous sommes nés avec la chair. Mais le don suprême, première naissance, nous sommes nés avec la chair. À notre deuxième naissance, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Dieu nous donne avec notre deuxième naissance une nouvelle nature. Et oui, la nouvelle naissance, c'est que tu es pardonné, oui, justifié, oui, ton nom écrit dans le livre de vie, oui, vie éternelle, oui, mais le don suprême du salut, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est une communion avec l'Esprit par lequel tu peux renverser les œuvres de la chair. Ta relation avec la personne du Saint-Esprit commence quand tu as dit oui à Jésus-Christ. Comprends bien. Parce que tu combats, parce que tu as encore, même si tu es né nouveau, cette nature, cette chair, la nature de chair, cette humanité, ces tendances humaines, même si tu as encore ces tendances humaines, tu n'es pas voué, tu n'es pas robotisé, tu n'es pas obligé à une vie de péché terrible, à une vie de péché atroce. C'est toujours une dimension de à quel point tu vas céder à la chair, à quel point tu vas t'abandonner à la chair. De la même façon, parce que tu es né de l'Esprit, ne fais pas de toi quelqu'un qui va vivre une vie spirituelle. C'est dans quelle mesure tu vas céder au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas dépendre du Saint-Esprit, tu vas être rempli du Saint-Esprit, que tu vas renverser la chair. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont nés de l'Esprit, mais qui vivent encore dans la chair, qui ont toutes sortes de manifestations qui sont contraires à celles de l'Esprit. Tout le combat réside là. C'est là que le combat prend place. Galates explique de cette façon, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si nous sommes nés de l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, il faut aussi que nous marchions dans l'Esprit. » C'est un choix, c'est une décision au quotidien. La chair, le péché, et ne peut pas être crucifié par nos propres forces, nos propres volontés, nos propres résolutions et nos propres capacités morales humaines. C'est par notre relation avec la personne du Saint-Esprit que nous pouvons résister, renverser et remporter la victoire sur toutes les œuvres de la chair. Je le répète, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne. Il a une personnalité, il n'est pas un feu, une rivière et un souffle et un vent. Il est une personne. Il peut être attristé. Il peut être éteint. Il peut être rebellé contre. Il peut être rejeté. il ne s'imposera jamais à ta vie. Il ne s'imposera pas à toi, il est une personne. Il est là avec toute l'expression, avec toute l'intentionnalité divine pour te faire vaincre tout ce qui est la chair et te faire marcher dans le royaume de Dieu et l'abondance de la vie que Dieu a pour toi. Mais jamais il ne s'imposera à toi. Il est Dieu, le Saint-Esprit, créateur, tout-puissant, avec toute puissance créatrice, comme de la première mention de lui dans la Bible à toi et moi aujourd'hui. Il y a quelque chose en théologie qu'on appelle, dans l'étude biblique, qu'on appelle la loi de la première mention. Je vous lis la première fois qu'on a mentionné le Saint-Esprit dans toute la Bible, c'est dans le premier livre, dans le premier verset. Genèse 1, 1 et 2. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. » En herméneutique, qui est la portion de la théologie, la science de la théologie, qui nous enseigne les différents principes pour l'interprétation des Écritures, lorsque tu étudies un immense sujet biblique, comme la personne du Saint-Esprit, une des lois qui est utile, c'est la loi de la première mention, ou la loi du premier usage. À quel endroit que ça a été mentionné pour la première fois dans la Bible et dans quel contexte donne souvent une direction sur la vraie essence du texte. Dans Genèse chapitre 1, c'est Dieu le Père est là, la parole était au commencement, nous dit Matthieu, alors Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit est là. La Bible dit, on n'a même pas rendu au verset 3, je ne veux même pas continuer dans le récit de la création sans parler du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit qui se mouvait. Il se mouvait sur ce qui était informe et vide. Dans la première mention, dans la première application, dans la première description du Saint-Esprit, il n'est pas statique, il n'est pas stagnant, il n'est pas stoïque, il est en mouvement. Et le Saint-Esprit veut toujours se mouvoir dans ta vie. Si tu es un croyant, le Saint-Esprit veut toujours agir, veut toujours se mouvoir, n'a jamais désiré arrêter de se mouvoir. Ne me dis pas que tu es un croyant rempli de l'Esprit s'il n'y a rien qui bouge. Personne ne dit « Amen » à ça, je ne m'attendais pas à un « Amen » non plus. J'ai entendu plein d'amen en ligne. Merci au public en ligne qui a dit « Amen ». Non, parle pas. Moi, j'ai été sauvé, j'ai été rempli de cet esprit et je te regarde aller depuis 30 ans. Tu ne changes pas, tu ne te transformes pas, tu ne te sanctifies pas, tu ne te bonifies pas, tu ne te repens pas, tu ne portes pas de fruits. Non, le Saint-Esprit, il est en mouvement. Il bouge, il change, il transforme, il agit, il parle, il façonne. Dis ça à quelqu'un près de vous, tu es supposé bouger. Dis ça à quelqu'un près de vous. Tu es supposé changer. Une église qui se dit remplie de l'esprit, il y a des choses qui vont bouger. Il y a une action qui va bouger. Il y a un mouvement de Dieu. Ne dis pas je suis un chrétien né de l'esprit, rempli de l'esprit, s'il n'y a pas de mouvement de l'esprit dans ta vie. La question est, quelle affiche le Saint-Esprit trouve-t-il à la porte de ton cœur? Arrêt ou accès? Est-ce que tu l'as arrêté il y a longtemps? Est-ce que tu lui donnes accès à toutes les chambres de ton cœur, à toutes les sphères de ta vie? Parce que la personne du Saint-Esprit veut encore... Est-ce que le micro commence à faire des siennes? Le micro tout neuf en plus. Il faut éteindre celui-là, on va avec celui-là. La personne du Saint-Esprit veut encore se mouvoir sur ce qui est informé vide dans ta vie. Sur ce qui a perdu ça. Le mot en hébreu, c'est tohu-bohu, ce qui n'a plus de forme, ce qui est vide. J'aimerais te dire que quel que soit ce que tu crois qui a été détruit, qui est informé vide, qui a perdu sa beauté, il est encore l'Esprit créateur. Il est encore capable de se mouvoir sur un cœur et donner un cœur nouveau, donner un pardon nouveau, donner un amour nouveau, donner une force nouvelle, donner une perspective nouvelle, donner un courage nouveau, donner une grâce nouvelle, donner une joie nouvelle. Il veut encore se mouvoir sur ce qui est informe et vide. Il veut encore mettre la lumière sur ce qui est sombre. Tu penses que tu regardes ton passé, c'est sombre. Les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Je regarde mon passé, c'est sombre. Je regarde mon présent, c'est sombre. Je regarde mon avenir, c'est sombre. Le Saint-Esprit veut encore se mouvoir et mettre une lumière sur ton cœur. Quelqu'un devrait dire oui. La première dimension, je nais de l'Esprit, mais aussi scellé de l'Esprit. Il veut créer un cœur nouveau. Il veut créer une confiance nouvelle. Une assurance et une confiance nouvelle en toi que rien ne te séparera de son amour. Amen. Que rien ne empêchera ses plans. Tu es scellé en lui. Éphésiens 1, 11 à 13. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance, exactement, quelqu'un qui a dit « Wow, c'est exactement ça que j'ai passé toute la semaine en lisant ce verset-là. » Dites à voix haute avec moi « Wow ». Encore plus « Wow ». Nous qui d'avance, qui servions à la louange de sa gloire, nous qui d'abord avons espéré en Christ, en lui vous aussi,
vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés de l'Esprit qui avait été promis. Le sceau, dans les temps bibliques, était un emblème, un logo qui identifiait l'origine. Qui est à l'origine de cette création? C'était une preuve d'acquisition, parfois sur achat. Les historiens parlent d'un grand entrepreneur qui achète des tonnes et des tonnes de bois, puis il met son logo sur chaque, parce que ça, c'est moi qui en ai fait l'acquisition. C'était une preuve d'acquisition, le sceau, d'appartenance et aussi d'autorité. Et Paul dit, tu es né de l'Esprit. La première dimension, c'est que tu es né de l'Esprit. Il faut que tu saches que tu as été scellé par Dieu. Dieu a dit, j'ai payé le prix en entier. Ça, c'est mon fils maintenant, c'est ma fille. Sa dette a été entièrement payée. Le sceau est sur lui et sur elle. Il n'y a plus personne qui peut le séparer de mon amour et de mes plans par mon Esprit. Si tu ne marches pas en communion avec l'Esprit de Dieu, l'ennemi te bombarde continuellement avec toutes sortes de choses. Culpabilité, condamnation, est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je ressens vraiment, est-ce que j'ai vraiment. Lorsque tu marches en communion, l'Esprit de Dieu est répandu, répand l'amour de Dieu dans ton cœur et te rappelle, tu es scellé. Il n'y a personne qui peut t'arracher à sa main. Quels que soient tes échecs et tes erreurs, quel que soit ce qui manque, l'Esprit de Dieu te dit, tu es scellé. Saviez-vous qu'il y avait un sceau dans le récit de la résurrection de Jésus? Il y avait un sceau sur le tombeau le plus célèbre du monde. Dans Matthieu 27, 66, ils s'en allèrent et s'assurèrent, après la mort de Jésus qui est au tombeau, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après que la garde avait scellé la pierre. Il y a un sceau, le sceau de Rome a été mis sur la pierre. Rome, la plus grosse puissance de l'époque, a dit maintenant, c'est nous qui avons mis notre autorité là-dessus. Notre sceau est là, ce qui est là est mort et ne pourra plus jamais sortir. Mais Rome ne savait pas qu'il y a un sceau qui est supérieur à tous les sceaux humains. Tous les sceaux humains. Ça, c'est Matthieu 27. L'ennemi veut te garder dans Matthieu 27 où le sceau est mis. L'ennemi a mis un sceau sur ta vie, une étiquette sur ta vie, une limite sur ta vie, un tag, un poinçon sur ta vie. Mais Dieu veut t'amener par son esprit dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Je crois littéralement, le sceau était sur la pierre. Je crois littéralement que l'ange s'est assis sur le sceau. Je crois littéralement, dans la Bible, assis exprime toujours une position d'autorité. C'est littéralement Dieu qui te dit, il n'y a rien qui peut te retenir. Tu pensais que tu avais été retenu là-dedans, il n'y a rien qui peut te retenir. Aucun tombeau ne pourra te retenir. Aucun sceau du passé ne pourra te retenir. Galates le dit de cette façon. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel nous crions, Abba, Papa, Père. Ou si tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, mais tu es fils et fille de Dieu par la grâce de Dieu. Quel que soit le sceau qui avait été mis sur toi, tu vas sortir de ce tombeau-là par ta communion avec l'Esprit. Oh, applaudissez celui qui nous fait sortir de tous les tombeaux. Ce n'est pas une question de « est-ce que je vais avoir le Saint-Esprit? » C'est « est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit t'avoir? » Est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit avoir plus de toi? Tous les chrétiens ont un accès à la même mesure de la personne du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui donnent accès au Saint-Esprit dans la même mesure. Vas-tu résister ou refuser ou réduire l'accès d'esprit à tous les chambres de ton cœur ou vas-tu, toi, lui remettre toutes choses et dire, Saint-Esprit, viens ouvrir chaque tombeau de ma vie. J'ai l'Esprit de la résurrection. Communion avec toi. Vas-tu limiter son accès ou vas-tu lui donner la liberté d'agir? Parce que nous sommes nés de l'Esprit, la progression. Nous sommes scellés de l'Esprit. Et la deuxième dimension, c'est afin d'être remplis, conduits et fortifiés par l'Esprit. Remplis, conduits et fortifiés par l'Esprit. Dès que Jésus a été baptisé, Matthieu 3, 16, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Comme dans Acte 2 à la Pentecôte, le Saint-Esprit, les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Comme dans Acte 8, les disciples ont été baptisés d'eau, nés de l'Esprit, mais l'Esprit n'était pas encore survenu sur eux. Comme dans Acte 19, Paul prie, et après leur baptême d'eau, que le Saint-Esprit vienne sur eux. Comme dans Acte 2, ils sont remplis, baptizo, il vient sur eux. Mais dans Acte 4, ils sont remplis, baptizo, encore. Le grand débat dans certains cercles, c'est est-ce qu'il y a une deuxième expérience? Oui, il y a une deuxième expérience, mais il y en a une troisième et il y en a une millième. Le Seigneur veut que tu marches de baptizo en baptizo, d'une plénitude, d'une continuité de plénitude. L'appel du Saint-Esprit à nous remplir baptizo encore et encore pour chaque défi aujourd'hui. Voici un des secrets les plus puissants et pratiques du royaume de Dieu. Tu vas être conduit par ce qui te remplit. Ce qui te remplit va déterminer ta conduite. Soyez remplis du Saint-Esprit. Prenez donc garde, Éphésiens 5, de vous conduire avec, soyez alerte, avec sagesse, circonspection, c'est alerte, avec un sens de alertness, de sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconscients, inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est le mot asotia, qui veut dire gaspillage, dilapider, perdre. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas endormi, inconscient, immature ou insensé spirituellement. Ne perds plus de temps. Les jours sont mauvais. Choisis de qui et de quoi tu vas être rempli. C'est ce que Paul dit. Comprends que la volonté de Dieu n'est pas la volonté de Dieu n'est que tu sois jamais, que tu ne sois pas rempli du vin du asotia. La majorité des théologiens ne voient pas ce texte-là comme une condamnation absolue de l'usage modéré et alerte du vin. Paul lui-même, le même auteur, dira à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Il va y avoir, le premier miracle de Jésus sera de tourner l'eau en vin. Il y a dans la Bible une comparaison et une confrontation entre le Saint-Esprit qui est appelé le vin nouveau et entre tout ce qui est asotia dans ce monde. L'apôtre Paul est en train de dire, choisis de quoi tu vas être rempli parce que c'est ça qui va déterminer ta conduite, qui va déterminer qu'est-ce qui te conduit. Si tu choisis d'être rempli de tout ce qu'il y a sur les médias sociaux, c'est ça qui va te conduire. Si tu choisis d'être rempli de toute la colère ambiante, c'est ça qui va te conduire. Si tu choisis d'être rempli d'ingratitude et d'amertume, c'est ça qui va te remplir. Si tu choisis d'être rempli de film après film et série après série, pornographique ou borderline pornographique, avec toute la sensualité, la grossièreté, c'est ça qui va animer ton esprit. Si tu choisis de te taper une série après l'autre glauque et négative, si tu choisis de te remplir de commérages, de te remplir de tout le complotisme à l'extrême, c'est ça qui va te conduire, qui va te diriger. Si tu choisis de te remplir de la course folle au matérialisme, à qui va avoir plus de bébés sur Facebook, qui va montrer le plus haut et c'est ça qui va occuper tes pensées. C'est ça qui va te remplir. Tu peux choisir d'être rempli de asotia, de choses qui sont vaines, de choses qui sont gaspillage, qui dilapident ton appel. Ou tu peux choisir d'être rempli de la personne du Saint-Esprit, d'alimenter, d'entretenir, de nourrir ton cœur, ton âme, ton esprit, avec la louange, avec la parole, avec la présence de Dieu, avec la maison de Dieu. Nous sommes scellés. Nous sommes nés de l'Esprit, salés de l'Esprit et remplis afin d'être conduits et fortifiés par l'Esprit. Regardez la progression. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, Luc 4, 1. Il revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit, rempli et conduit au désert. Comment savoir si je suis conduit par l'Esprit? Je vous donne une bonne façon de savoir. L'Esprit va toujours te conduire où tu n'irais pas par toi-même. Tu veux savoir si tu es conduit de l'Esprit, l'Esprit va te conduire vers la repentance. C'est pas là que tu voudrais aller. C'est lui qui va te conduire. Tu veux savoir si tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit va te conduire vers le pardon. Il va te conduire vers la sanctification. Il va te conduire vers détacher de ta vie ce qui est toxique. Il va te conduire à sa présence. Il va te conduire à l'humilité. Il va te conduire au pardon. Il va te conduire au zèle. Il va te conduire au sacrifice. Quand tu apprends à marcher avec la voie de l'Esprit, tu es d'abord toujours interloqué que l'Esprit de Dieu va toujours... Une des meilleures façons de savoir que c'est lui, c'est qu'il va toujours te parler de choses que ta chair ne veut pas faire. Il va toujours t'amener dans des sentiers de pardon, dans des sentiers de zèle, dans des sentiers de les autres, dans des sentiers d'amour, dans des sentiers où tu ne voudrais pas aller, dans des sentiers où tu n'es plus en comparaison, dans des sentiers où tu marches. Et c'est l'Esprit qui te conduit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, dit Romain, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Alors, vous avez des fils et des filles qui sont devenus fils et filles par le salut, mais qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit. Parce que si tu te laisses conduire par l'Esprit, il va toujours, quelle que soit ta génération, quel âge que tu es rendu, dans quelle décennie tu es, si tu es conduit par l'Esprit, il te parle de choses nouvelles. Il te parle d'exploits nouveaux. Il te parle de passions nouvelles. Il te parle de marcher encore plus proche. Il te parle d'être encore plus près de lui. Et lorsque tu veux savoir si tu es conduit par l'Esprit, tu sais que tu es conduit par l'Esprit quand tu viens à une révélation, une réalisation profonde, que l'Esprit ne parle pas et ne conduit pas seulement dans le spectaculaire, dans le vent et le feu, mais dans un souffle doux à ton cœur. Il y a des milliers de chrétiens qui cherchent le vent et le feu partout, et lorsque la réunion vent et feu est finie, continuent à marcher sans écouter l'Esprit. Dans Premier Roi, avec Élisée qui était dans un moment de dépression, un moment de questionnement de sa foi, un moment où il ne savait pas, tout ce qu'il avait cru avait été secoué. Et il était même à un moment où il avait demandé la mort, un moment de tourment, bombardé par l'ennemi. Et le Seigneur lui dit, « Sors, tiens-toi là devant la montagne. » Et voici l'Éternel passant, mais devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans ce vent-là. Et après, le vent se fait tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et quelle phrase extraordinaire. Et après le feu, un murmure doux et léger. Comprenez bien, chacune des manifestations qui sont là, le vent, le feu, la montagne qui est secouée, sont des manifestations que Dieu avait, qui sont énumérées là, par lesquelles Dieu avait agi dans le passé. Mais il nous appelle à une relation avec son esprit où par sa parole, il parle à nos cœurs et nous conduit dans sa volonté. Après, si c'est une phrase que tu te souviens, et après le feu, un murmure doux et léger. La direction de l'esprit, la communion avec l'esprit. Des milliers et milliers de croyants qui, les réunions de feu. Et pourtant, tu les vois sortir. Il ne semble pas y avoir ni transformation, ni fruit, ni après le feu et le vent. Le murmure doux et léger de la communion. Tu veux savoir que c'est l'Esprit? Tu vas savoir que c'est l'Esprit quand ça interpelle ton ego, tes plans, tes échéanciers, quand ça contredit tes sources à toi, tes émotions, tes désirs, tes agendas, tes garanties, ta sécurité. Après le feu, le murmure doux et léger de l'Esprit va être écouté, va être obéi ou ignoré. Plus tu l'ignores et tu lui résistes, moins tu l'entends. Plus tu l'ignores et tu le résistes, moins tu l'entends. Et plus c'est dans la proximité qu'une personne peut parler, dans un murmure doux et léger à une autre. Comment l'entendre? Approche-toi. Éteins les autres voix tonitruantes. Et va à sa parole, va à sa présence. Tu vas savoir que c'est l'Esprit qui te conduit quand Dieu t'amène, à un point dans ta vie, lorsque tu deviens de plus en plus, t'amène à un endroit où ce que, il t'apprend à te nourrir et à te fortifier par sa parole pour résister à ton ennemi. Pour que, comme Jésus, tu puisses dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est dans les déserts que se développent les destinées. C'est dans les saisons de silence que le surnaturel est semé dans nos vies. Je n'aurai pas le temps de le prêcher, je vais le faire mercredi. Mais l'Esprit va te conduire seul ou seulement sa parole va pouvoir te fortifier et te permettre de résister et renverser les mensonges et attaques de l'ennemi. L'Esprit de Dieu a rempli Jésus. Le conduit au désert où là, il est en train d'être façonné pour l'accomplissement de sa destinée, mais aussi pour répondre à l'ennemi. Et il a répondu à l'ennemi. Je le redis une autre fois. L'Esprit de Dieu va te conduire dans des endroits où seulement les promesses de Dieu vont pouvoir te permettre de traverser. Lorsque l'ennemi est venu tenter, lorsque le tentateur Satan lui-même s'est approché de lui, le Fils de Dieu, et qu'il disait, « Ordonne à ces pierres de devenir des pains après qu'il jeûnait pendant 40 jours », Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Pourquoi Dieu permet-il des saisons où tu dois apprendre à être fortifié et nourri surnaturellement par son esprit qui donne vie aux Écritures et sa personne donne puissance à sa parole? Pour que tu ne deviennes pas un junkie d'émotions et de trips spirituels à l'Église. Multitude de personnes que c'est juste d'un trip à l'autre, d'une affaire à l'autre, d'une exposition, d'une émotion à l'autre, d'une affaire à l'autre, d'une parole prophétique à l'autre. Quand tu es dans le désert face à l'ennemi, ce n'est pas des effusions et des émotions qui vont te faire renverser l'ennemi. Tu dois dire comme Jésus, l'Esprit de Dieu est sur moi. Tu dois dire comme Jésus, il est écrit. Il te donne des promesses dans sa parole, dans le désert, qui viennent te fortifier et qui font que tu t'en vas à la prochaine étape. Et tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je sais maintenant pourquoi il m'a appelé. C'est l'appel ce matin ici. As-tu soif? En as-tu assez du religieux? En as-tu assez de juste vivre par tes propres opinions, tes propres affaires, tes propres limitations? Le jour de la grande fête, Jésus se tint au milieu d'eux et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est nous. L'Esprit n'avait pas encore été, n'était pas encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Alors, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui viennent et qui disent, « Seigneur, j'ai été un ruisseau sec moi-même. » Quel verset? « Ceux qui ont été eux-mêmes des ruisseaux desséchés vont devenir des fleuves de sources d'eau vive pour abreuver d'autres. » J'étais un ruisseau desséché. Je suis dans un désert en ce moment. Mais j'ai soif de toi. Viens me remplir. Il n'y aura... Faut que j'arrête. Il n'y aura jamais une saison de ta vie où tu n'auras pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y aura jamais un chrétien, il n'y aura jamais un chrétien qui va être seulement appelé à être un récipient de l'Esprit. Chacun de nous sommes appelés à être vêtus de l'Esprit, à devenir une source d'eau qui va abreuver d'autres. Il n'y aura jamais de relation avec le Saint-Esprit selon le plan de Dieu, authentique de Dieu, par une église ou par un peuple qui ne veut l'Esprit que pour lui-même. Si quelqu'un a soif qu'il vienne, tu es un ruisseau desséché. Je vais répandre en ton sein par mon Saint-Esprit. Et tu vas devenir une source d'eau qui va abreuver des multitudes. Si tu as soif ce matin, si tu as soif aujourd'hui, Saint-Esprit t'appelle. Et voici la prière qu'on va faire ensemble. Levons-nous ensemble dans sa présence. Et toi, de l'autre côté de ton écran, tu es là. Tous ceux qui sont autour de Montréal, ce mercredi 28, chacun d'entre vous qui est ici, ce mercredi 28, dans la présence de Dieu, ensemble. Est-ce qu'on peut commencer dès maintenant à tendre les mains vers Dieu, partout à travers ce lieu, et à prier cette prière avec moi? Priez avec moi. Commencez à prier là où vous êtes. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu veux une relation avec moi. Pardon si je t'ai éteint. Pardon si je t'ai attristé. Pardon si je t'ai négligé. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, je suis né de toi. Je veux avoir une relation avec toi. Une communion avec toi. Merci pour la grâce de Jésus-Christ et merci pour l'amour de Dieu. Mais tu veux, comme le Père veut, comme Jésus veut répandre sa grâce sur moi, le Père veut répandre son amour. Tu veux, toi, une relation avec moi, Saint-Esprit. Alors je tends mes mains vers Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, ce matin. Saint-Esprit, je veux te connaître plus. Saint-Esprit, je veux apprendre à marcher avec toi. Pas juste avoir un moment avec toi, mais à marcher avec toi. Saint-Esprit, je suis né de toi, mais je veux que tu viennes me fortifier dans le fait que je suis scellé de toi. Les choses ont pris place dans ma vie qui m'ont amené à des saisons de doute, des saisons de questionnement, mais je suis scellé par toi. L'ange s'est assis et a ouvert le sceau. Il n'y a aucun tombeau qui peut me garder. Saint-Esprit, je veux apprendre ce qui est bon devant toi. Je veux pouvoir dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. J'ai appris à parler comme l'Esprit voulait que je parle, à penser comme l'Esprit voulait que je pense, à agir comme il voulait que j'agisse, à avoir l'attitude qu'il voulait que j'aille. Saint-Esprit, mets-moi à part pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Je prie au nom de Jésus pour cet esprit prophétique, l'Esprit de Dieu qui dit, alors qu'il servait et qu'il jeûnait, mettez à part Paul et Barnabas. Mettez à part Saul et Barnabas. Il y a des gens qui sont ici ce matin et en ligne. Le Seigneur veut renouveler ton appel, veut confirmer ton appel, veut faire taire les voix de l'ennemi qui essayait d'avorter ton appel. Le Saint-Esprit a des œuvres pour toi. Il t'appelle ce matin. Le Saint-Esprit vient, oh Saint-Esprit, vient créer la vie sur ce qui était informe et vide, ce qui avait perdu sa beauté en moi. Saint-Esprit, vient souffler ta lumière, faire briller ta lumière sur ce qui était sombre en moi. Saint-Esprit, je vais être rempli de toi. Je vais entretenir mon cœur avec toi. Ce qui me remplit va me conduire. Et je me suis laissé remplir par trop d'autres choses. Ce matin, je vais être rempli de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je suis au désert en ce moment. Mais là, au désert, comme Jésus, viens me donner des paroles. Je vais aller dans ta parole. Et ta parole va s'écrire sur mon cœur par l'Esprit. Et je vais repousser l'ennemi par les promesses que tu vas me donner. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens faire ton œuvre en moi. Viens bouger en moi. Te mouvoir en moi. Dans le nom de Jésus, est-ce que je peux vous voir partout à travers ce lieu? Tendre vos mains vers Dieu et commencer à lui parler.